Le journal Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. Alors que Benjamin Netanyahou dément le rapport de l'ONU sur la famine à Gaza, les Israéliens continuent à manifester pour la libération des otages et la fin de la guerre. Nous serons à Jérusalem. Au Liban, les bombardements de l'armée israélienne continuent, mais les autorités font déjà face au défi de la reconstruction. Reportage à Yaroun, près de la frontière. Un mensonge éhonté, la réaction du gouvernement israélien qui rejette le rapport de l'ONU sur la famine dans l'enclave palestinienne. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit ses préparatifs pour la prise de contrôle de la ville de Gaza, alors que des dizaines de milliers d'Israéliens manifestent tous les samedis soirs. Reportage dans les rues de Jérusalem, Michel Paul, RFI.
Cette fin de semaine encore, les Israéliens descendent dans la rue pour demander l'arrêt de la guerre et le retour des otages. Et après la publication du rapport de l'ONU sur la famine à Gaza, nombreux sont ceux qui arborent des photos d'enfants gazaouis affamés. Maya Rosenfeld est politologue à l'Université hébraïque de Jérusalem.
C'est un plan pour transformer la bande de Gaza en zone inhabitable. Je ne vois pas la famine comme quelque chose à part. Cela fait partie d'un projet génocidaire. C'est très dur.
Pour Yanaï, il faut documenter la situation à Gaza pour contrer le déni du gouvernement.
Je suis persuadé qu'il y a de la famine. Je n'ai pas confiance dans ce gouvernement qui ne permet pas aux journalistes d'entrer à Gaza. Je n'ai aucune raison de les croire. Je manifeste contre eux.
Mais sur ce point, les avis divergent. Pour Benjamin, le rapport de l'ONU repose sur des données fausses et tendancieuse.
Il n'y a pas de famine. Il y a une campagne contre Israël parce que nous sommes juifs. On doit faire face à cela et faire avec. Nous donnons de la nourriture et de l'aide, mais le Hamas le prend car il veut contrôler la situation. On ne peut rien faire. Le monde sera toujours contre nous.
Le Forum des familles appelle à une nouvelle journée de grève et de protestation mardi prochain.
Et hier, le chef d'un parti d'opposition israélien a appelé à former un gouvernement temporaire sans les alliés d'extrême droite, dans l'espoir de libérer les otages. Encore 51 morts à Gaza hier, selon la défense civile palestinienne. Son porte-parole fait état d'une situation absolument catastrophique. L'armée israélienne continue de bombarder le Liban et d'occuper plusieurs portions de la frontière. Le sud du pays est encore dévasté. La population se sent impuissante. Notamment face aux enjeux de la reconstruction, le Hezbollah tente de tirer parti de ce grand chantier en promettant notamment d'indemniser les habitants. Notre correspondant Arthur Saradin s'est rendu à Yaroun, village partagé entre chiites et chrétiens face à la frontière, en compagnie de Rabbi, l'un des habitants.
Il n'y a plus de maison, mais on a toujours les routes.
Pour qu'on s'imagine, c'est possible de décrire un peu ce qu'on a devant nous?
Des tas de cailloux. Chaque tas est une maison.
Il n'y en a pas une seule qui a survécu.
Ici, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Structurellement, ça ne va pas tomber. Donc on considère que ça a survécu. Et là, c'est l'église. Vous êtes descendu voir ou pas?
Non.
Alors dans ce quartier du village de Yaroun où on se trouve, les bâtiments, ils ont été détruits soit au bulldozer, soit par des opérations de dynamitage de l'armée israélienne. L'église qui est devant nous, elle est complètement effondrée.
On s'engueulait aujourd'hui entre nous tous parce qu'on ne savait pas du tout quand est-ce qu'on doit démarrer la reconstruction de cette église. Même l'archevêque disait « attendez un peu » parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer.
Et alors qu'après les dernières guerres, tout avait été toujours reconstruit ici.
En 2006, mais il y a eu tellement de fonte. Ils sont venus, les Qataris, avec plein de sous. Ils ont reconstruit pas mal de villages. Ici, ils ne sont pas là, les Qataris. Pas cette fois-ci.
En fait, ce que nous racontent les civils ici, c'est la peur du retour d'une guerre. Et sans investissement étranger, sans plan national de reconstruction, le maire d'un village voisin, Kassem, explique qu'il y a un acteur qui profite du vide auprès des habitants.
Hezbollah, il a donné entre 1 000 $ et 30 000 $ pour réparer leur maison.
Les autorités libanaises, elles, ont promis de désarmer le Hezbollah. Elles doivent aussi stabiliser la frontière encore occupée en partie par Israël. Et parmi ces chantiers immenses pour les Libanais du Sud, celui de la reconstruction est sans doute le plus incertain.
Arthur Saradin, correspondant pour France Culture. En France, débat sur le budget, milliards d'euros d'économies à trouver. Révolte populaire le 10 septembre. La rentrée politique s'annonce délicate pour le Premier ministre. François Bayrou tiendra une conférence de presse demain à 16h. De nouveaux moyens contre le narcotrafic en Guadeloupe. En visite sur l'île, le ministre de l'Intérieur a annoncé renforcer les équipes de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, pour lutter contre la violence et la délinquance violence dans les Antilles. Le travail des chercheurs est plus que ralenti au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Victime d'une cyberattaque le 27 juillet dernier, les services internes du musée ont été touchés. Galeries, parcs zoologiques et jardins restent ouverts, mais l'accès aux bases de données scientifiques et aux outils numériques est bloqué, Savannah Ruellan.
Impossible d'accéder aux bases de données du musée pour les chercheurs en biologie, en archéologie et en paléontologie. Côté administratif, les services de ressources humaines doivent également composer sans leurs outils habituels. Gilles Bloch est directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Pour nous, c'est très handicapant. Les logiciels RH, ils sont à l'arrêt. Passer des commandes, rédiger un ordre de mission, tout ça se fait de façon plus manuelle. Il faut accepter un certain ralentissement du travail de recherche quand les collègues ont besoin de piocher dans des grandes bases de données qui sont plus accessibles aujourd'hui.
Une cyberattaque dont la finalité pose question. En effet, les données des visiteurs du musée, gérées par un prestataire externe, n'ont pas fuité. Mais le mode opératoire utilisé fait penser à un rançongiciel, un logiciel malveillant qui aspire les données. Ce genre d'opération représente 22% des cyberattaques, d'après l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Mais pour Nicolas Arpagion, expert en sécurité numérique, l'hypothèse la plus probable est celle du hasard.
Le fait que le pirate a automatisé l'expédition de dizaines de milliers d'emails contenant des liens infectés ou des pièces jointes avec une charge malveillante. Et parmi les destinataires, il y aura des institutions privées, publiques, plus ou moins dotées financièrement. Et donc là, il peut y avoir ce côté un peu victime collatérale, ça fait partie des motivations possibles pour expliquer ce type d'action.
Le musée a déposé plainte et une enquête est en cours. La réhabilitation des logiciels doit encore prendre plusieurs semaines.
Un mot sur le temps pour finir. Tout l'Hexagone sera ensoleillé ce matin et les températures seront assez douces. 19 à Rouen, 21 à Brest et 24 à Tarbes.